Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Vague de protestation dans la région contre l'augmentation du prix de l'essence. Les chauffeurs de taxi au Niger observent ce mercredi à Niamey une grève d'une journée pour réclamer la baisse du coût de l'essence que le Niger produit depuis 2011. En Côte d'Ivoire, les associations de consommateurs ont récemment dénoncé les augmentations successives du prix du carburant qui ont fait grimper en moins d'un an le prix du super de 570 francs CFA à 620. Et au Burkina voisin, syndicats et organisations de la société civile ont appelé à une grève générale pour demain jeudi 29 novembre pour protester contre la hausse de 12% du prix du litre à la pompe en place depuis le 9 novembre. Nous restons au Burkina Faso où le procès des auteurs présumés du coup d'État de 2015 continue. Au deuxième jour de sa comparution au tribunal à Ouagadougou, le général Gilbert Diendéré, réputé être le cerveau du putsch, a affirmé hier ignorer qui a commandité la tentative de coup d'État. Les détails avec Bagassi Koura.
Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire qui a commandité, qui a ordonné le coup d'État, a déclaré le général Gilbert Diendéré. La veille, il avait catégoriquement nié être à l'origine du coup d'État manqué. Il avait pris la tête du Conseil national pour la démocratie, organe dirigeant des putschistes, avant de rendre le pouvoir face à la pression populaire et celle de l'armée loyaliste. Il a été pendant 3 décennies un des hommes forts du pays comme chef du régiment de sécurité présidentielle, l'unité d'élite qui a perpétré le coup, puis chef d'état-major particulier du président Blaise Compaoré jusqu'à sa chute en fin 2014. Golf, comme le surnomme le Burkinabé, est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, trahison et meurtre. Le coup de force a fait 14 morts et 270 blessés en septembre 2015. 84 accusés sont jugés par un tribunal militaire depuis le début du procès en février, dont un autre général, Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères. Maître Séraphin Sommet, avocat de la partie civile, a fait part de sa déception. L'audience doit reprendre aujourd'hui avec les questions du parquet militaire.
La lutte contre les djihadistes au Sahel maintenant. Revenons sur la mort présumée du chef terroriste Amadou Koufa dans le centre du Mali. Ce prédicateur aurait été tué dans un raid des armées françaises et maliennes le week-end dernier. Il y a quelques semaines, dans une vidéo de propagande, Amadou Koufa avait appelé les peuples de la région à s'unir pour le djihad. Que signifie sa mort pour la lutte contre le terrorisme au Mali? Bagassi Koura a posé la question à Dakar à Bakary Sam, spécialiste du terrorisme en Afrique.
Amadou Koufa peut être considéré comme un produit des frustrations qui ont frappé des communautés peules qui étaient victimes de vols et d'extorsion de leur bétail de la part de certains éléments du MNLA et à un certain moment sont allés apprendre à manier les armes du côté de Hatmi. Il y a une différence de perception d'Amadou Koufa qui, sur le plan international, est considéré comme étant le chef du Front de libération du Massina, alors que lorsqu'on se rend sur place, c'est quelqu'un de très isolé, sans grande influence, mais qui a su récupérer une frustration des peuples dans cette région-là, qui n'avaient plus de pâturage et qui commençaient à vivre dans un certain nombre d'injustices de la part aussi bien des forces de sécurité et de défense, mais aussi de certains éléments armés contre lesquels ils ont voulu se défendre, ce qui a poussé certains éléments qui l'ont accompagné à aller apprendre à manier les armes auprès de Hakmi et d'autres groupes djihadistes.
Récemment, on l'a vu dans une vidéo à côté d'autres chefs djihadistes, dont notamment Iag Gali. Ça veut dire qu'il avait pris des galons.
Oui, vous savez maintenant que les groupes terroristes ne sont plus dans une forme d'organisation hiérarchisée, mais ils sont surtout dans la logique de captation de toute forme de frustration. Comme on dit, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Et donc, ce qui l'a poussé à aller vers Iag, actuellement, il y a des tentatives de regroupement. Mais il ne s'agit nullement d'une organisation hiérarchisée avec un commandement centralisé. Aujourd'hui, les groupes djihadistes ont complètement changé de mode d'opération. Il ne s'agit plus d'organiser des réseaux opérationnalisés, des réseaux à commandement uniformisé. Il s'agit maintenant de capter les conflits locaux, de capter les frustrations locales, d'y mettre une coloration islamique, sachant que s'ils le font, les puissances occidentales vont intervenir et que ça va encore augmenter la frustration. On peut comprendre cette forme d'alliance, en tout cas visualisée, comme une stratégie non seulement de rapprochement, mais de dire que ça y est, nous sommes inscrits dans la mouvance djihadiste et nous partageons les mêmes ennemis pour le moment.
Sa mort, qu'est-ce que ça pourrait changer?
Sa mort ne changera absolument rien dans ce qui se passe actuellement dans le centre du Mali. Au contraire, avant, il y avait le discours et l'idéologie. Aujourd'hui, il y a l'image du martyr qui peut encore accentuer les conflits dans le centre du Mali.
Bakary Sam, spécialiste du terrorisme en Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Cameroun, au moins 29 personnes ont été blessées dans un attentat suicide perpétré ce mercredi par une femme à Amchidé, ville camerounaise de la région de l'extrême nord, régulièrement frappée par des attaques des djihadistes de Boko Haram en provenance du Nigeria voisin. Avant de pouvoir passer à l'action, une deuxième femme kamikaze a été abattue par des soldats déployés dans la ville pour contrer Boko Haram, selon l'armée camerounaise. Politico au Gabon, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis le 24 octobre à Riyad, quittera la capitale de l'Arabie Saoudite aujourd'hui pour Rabat au Maroc. C'est ce qu'a annoncé mardi son épouse Sylvia sur sa page Facebook. Les détails avec Morgane Guiriec.
Mercredi 28 novembre, Ali Bongo Ondimba, mon époux, quittera l'hôpital du roi Faisal de Riyad en Arabie Saoudite, a écrit Madame Bongo en ajoutant qu'il arrivera le même jour à Rabat. Madame Bongo Ondimba a souligné qu'elle et son mari tiennent avant toute chose à exprimer leur profonde gratitude à l'endroit des autorités saoudiennes et du corps médical. Pour poursuivre sa convalescence, le président, en concertation avec sa famille proche, a fait le choix d'accepter la proposition d'accueil de son frère, Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI. « Nous lui en sommes extrêmement reconnaissants », a ajouté Sylvia Bongo. Elle a précisé que ce transfert de Riyad à Rabat a été rendu possible grâce à l'amélioration très significative de l'état de santé de son mari, Ali Bongo. Depuis son hospitalisation le 24 octobre à Riyad, la présidence gabonaise n'a jamais précisé le mal dont souffrait le chef de l'État.
République démocratique du Congo, 5 médias internationaux ont publié aujourd'hui le premier volet d'une enquête sur le meurtre en 2017 de deux experts des Nations Unies dans le pays. Une enquête selon laquelle l'ONU a été partagée entre quête de la vérité et souci du compromis avec Kinshasa. L'enquête s'appuie sur des milliers de pages de documents confidentiels des Nations Unies et revient sur le rôle qualifié de trouble attribué à des agents de l'État congolais dans le meurtre des deux experts le 12 mars 2017 dans le Kasaï, région du centre du pays. Et toujours concernant la RDC, des dizaines de milliers de personnes ont salué hier le retour à Kinshasa du tandem Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Les deux opposants ont promis d'aller aux élections du 23 décembre avec ou sans la machine à voter que d'autres opposants qualifient de machine à tricher. Le point avec Eddie Sango.
La police a brièvement fait usage des gaz lacrymogènes pour tenter d'accélérer les rythmes du cortège entre l'aéroport de Ndjili et les centres-villes. « Nous irons avec le peuple et nous allons gagner », a déclaré M. Tshisekedi avec Vital Kamerhe, son directeur de campagne, qui a assuré qu'ils vont atteindre carrément les 60% de l'électorat. M. Tshisekedi, 55 ans, est le président et le candidat d'élu de PS fondé par son père Étienne Tshisekedi. M. Kamerhe, 59 ans, est un ancien président de l'Assemblée nationale, ancien directeur des campagnes de Joseph Kabila en 2006 et passé à l'opposition depuis 2011. Le 12 novembre, ils se sont retirés au bout de 24 heures d'un accord entre sept opposants à Genève désignant Martin Fayoulou, candidat commun de l'opposition. M. Fayoulou a été salué par des milliers de personnes à son retour à Kinshasa mercredi dernier. Il est soutenu par les opposants Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. En face, l'ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari et les porte-drapeaux du Front commun pour le Congo et l'élection présidentielle du 23 décembre est un scrutin à un seul tour.
Élection à Madagascar pour terminer. Un second tour devra départager le mois prochain. Les deux anciens présidents malgaches Andre Rajoel et Marc Ravalomanan arrivent en tête du premier tour de la présidentielle. C'est ce que confirment les résultats définitifs proclamés ce mercredi par la Haute Cour constitutionnelle malgache. Aucun des 36 candidats en lice le 7 novembre n'a obtenu les 50% de voix requis pour être élu dès le premier tour. André Joël est arrivé en tête avec 39,23% des suffrages devant Marc Ravalomanane, 35,35% selon les chiffres publiés par la Haute Cour, qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours. Les deux hommes se retrouveront donc pour un second tour le 19 décembre. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.